Bonjour à tous. Je commence par lire l'article de la Confession qui parle du Saint-Esprit. Nous croyons qu'après son ascension au ciel, le Christ a envoyé l'Esprit Saint de Dieu à tous ceux qui croient en lui. Il habite en eux et leur rend capable de vivre une nouvelle vie selon les enseignements du Christ. Il se manifeste par son fruit et par ses dons pour accomplir la mission donnée par Jésus. Un jour, j'ai eu une offre d'emploi pour un pasteur. Oui, on peut continuer la présentation. Oui. Une offre d'emploi pour un pasteur, toujours intéressant. Ce n'est pas celui-ci, c'est un exemple. Dans le profil, il y a fait quelques conditions. Le pasteur doit premièrement être baptisé d'eau. Deuxièmement, être baptisé du Saint-Esprit. C'est intéressant. Comment est-ce qu'il peut montrer qu'il est vraiment baptisé d'eau? C'est facile. Il peut montrer une attestation du baptême. Mais comment est-ce qu'il peut montrer à lui-même, à son futur Église, qu'il est réellement baptisé du Saint-Esprit? Comment on peut dire ça? Et qu'est-ce que ça veut dire, être baptisé du Saint-Esprit? Jean-Baptiste a dit ça de Jésus. C'est lui, Jésus, qui vous baptisera du Saint-Esprit. Et ça concerne la promesse de l'ancienne alliance. Comme Pierre disait au jour de Pentecôte, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et il parlait du Saint-Esprit. La promesse, c'est la promesse la plus importante de l'ancienne alliance. Donc pour comprendre l'œuvre du Saint-Esprit, il faut d'abord comprendre cette promesse. Et c'est ainsi qu'on commence ce matin par l'histoire, la promesse de l'ancienne alliance qui concerne le Saint-Esprit. Ensuite, on va parler de Jésus qui a commencé à accomplir cette promesse, lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et ça nous concerne, bien sûr. Soyez remplis du Saint-Esprit. Je ne parlerai pas des dons spécifiques du Saint-Esprit. Je ne parlerai pas des dons extraordinaires. Ça suscite toujours beaucoup de discussions, je le sais, c'est important, mais avant d'entamer une discussion sur les choses spécifiques, il faut d'abord comprendre la chose générale, l'essentiel de l'œuvre du Saint-Esprit. Et après la première partie, je vous donnerai l'occasion de poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas suffisamment claires. Et après la troisième partie, encore une fois. Si on commence par l'histoire, il faut commencer par Abraham. C'est avec Abraham que Dieu a conclu une alliance. « Je maintiendrai, dit Dieu, mon alliance avec toi, puis après toi, avec tes descendants. » De génération en génération, pour toujours. Ainsi, je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Et vous voyez ici le grand but de cette alliance, le grand objectif, voilà le grand but de cette alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Il veut que son peuple, le peuple d'Israël, que ce peuple soit vraiment son peuple à lui. Et il veut être le Dieu de ce peuple. Il vise à une relation réciproque. Moi, ton Dieu, toi, mon peuple. Voilà le grand désir de notre Dieu. Et cela implique que le peuple mène une vie appropriée à Dieu. Et Dieu a fait ça déjà à fond à Abraham. Vie dans ma présence et sois intègre. Au mont Sinaï, les descendants d'Abraham sont devenus déjà un peuple. Et maintenant, Dieu va prendre ce peuple pour habiter avec ce peuple en Canaan. C'est comme un jeune couple. À partir du jour du mariage, on va cohabiter dans la même maison et on va se réjouir l'un de l'autre. C'est ainsi que Dieu a voulu cohabiter avec son peuple en Canaan, pour vivre avec ce peuple. Et il leur a donné des ordres, des règles, des lois, pour rendre possible, cette cohabitation. Comment vous, mon peuple, comment vous pouvez vivre avec moi en suivant ces lois, cette direction, pour que nous vivions en bonne harmonie dans le pays de Canaan. Voilà l'intention de Dieu. Mais quelle a été la réalité? Il y a eu certaines périodes, certaines bonnes périodes, par exemple, pour David, Salomon, ainsi de suite. Mais la grande ligne de l'histoire de l'ancienne alliance, c'est une ligne descendante. Toujours de nouveau, le peuple a abandonné Dieu. Toujours de nouveau, on a suivi d'autres dieux. Et Dieu a envoyé beaucoup de prophètes pour les avertir, pour qu'ils changent, mais jamais on a fait ça effectivement. Ils n'étaient pas touchés par cet appel de Dieu. Il n'y a pas eu vraiment un changement intérieur de ce peuple. Et après tous ces siècles, il ne reste qu'une seule conclusion. L'alliance que Dieu a fait conclue au mont Sinaï est aboutie à un échec. Apparemment, le peuple ne veut pas et ne peut pas vivre avec son Dieu. Et Dieu a dû renvoyer le peuple du pays, la captivité de Babylone, et il s'est retiré du temple. Et le temple et Jérusalem ont été détruites. C'est la fin de cette histoire. Non. Non. Ce n'était pas la fin. Dieu a envoyé son prophète Jérémie. Jérémie a vécu au début de la période de la captivité. Il a vu de ses propres yeux la destruction de Jérusalem, la captivité, la déportation du peuple. Mais qu'est-ce qu'il a pu dire au peuple? Voici, les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres, au mont Sinaï, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cette alliance, ils l'ont rompue, alors même que j'étais leur maître, dit le Seigneur. Voilà. Une nouvelle alliance. Ah non, je dois d'abord continuer la lecture. L'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël consistera en ceci, déclare le Seigneur. J'inscrirai mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je le graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus besoin d'instruire ses proches en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car du plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront, déclare le Seigneur. Et je pardonnerai leur tort. Je ne me souviendrai plus de leur faute. Voilà une prophétie vraiment surprenante parce que Dieu annonce une alliance nouvelle. Le mariage du mont Sinaï était abouti à une divorce. Mais ici, Dieu annonce un remariage. Il va conclure encore un mariage, encore une alliance avec son peuple. Bien que son peuple, son épouse était toujours infidèle. Mais pour pouvoir faire ça, il faut un renouvellement intérieur. Et c'est ça que Dieu annonce. J'inscris mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, comme au mont Sinaï, mais dans leur conscience. Je le graverai dans leur cœur. Vraiment un renouvellement intérieur, afin que le peuple vive avec Dieu par une motivation intérieure, pas seulement des prescriptions extérieures, mais une motivation intérieure, la loi inscrite sur leur cœur. Et quelle est la conséquence? Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. L'ancien désir de Dieu, ce qu'il a toujours voulu, il va atteindre ce but. Il va faire de sorte qu'il soit leur Dieu et il soit son peuple. C'est une belle promesse. Mais comment est-ce que Dieu peut arriver à cela? Est-ce que le peuple s'est amélioré? Est-ce qu'à partir de ce moment, on va vraiment suivre Dieu au lieu de suivre des faux dieux, ainsi de suite? Comment est-il possible qu'il y ait un tel grand changement? C'est le prophète Ézéchiel qui donne une réponse à ça. Ézéchiel qui a vécu pendant la période de la captivité de Babylone, il a vécu parmi le peuple déporté. Et il peut annoncer ceci de la part de Dieu. En effet, je vous prendrai, donc je c'est Dieu, vous c'est le peuple d'Israël, je vous prendrai du milieu des populations et des lieux où vous vous trouvez dans la captivité. Je vous rassemblerai et vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous de l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Alors, vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Encore une fois, c'est ce désir de Dieu. Il va atteindre ce but. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Mais pour arriver cela, là-bas, qu'est-ce qu'il faut? Je verserai sur vous de l'eau pure qui vous purifiera. C'est une image qui nous fait penser déjà au baptême. Je vous donnerai un cœur nouveau. Encore une fois. Mais comment? Comment Dieu peut donner un cœur nouveau? Voilà la réponse. Je mettrai en vous mon esprit. C'est ça la grande promesse de l'ancienne alliance. C'est ça qui rendra possible que le cœur du peuple change, qu'on restera fidèle au lieu d'abandonner toujours de nouveau son Dieu. Et la conséquence, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Dieu va atteindre son but. Il y aura un peuple qui suit ses prescriptions, qui vit en harmonie avec lui. Et c'est par son Saint-Esprit qu'il va effectuer là-bas, cela. Voilà la promesse de l'ancienne alliance qui, depuis ce moment, attend d'être accomplie. Je m'arrête ici pour un instant pour voir s'il y a des questions sur cette partie, des choses qui n'étaient pas suffisamment claires. Et ça me donne l'occasion de prendre un coup d'eau. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Sinon, je continue. Que je continue? Ok.
C'est clair.
Merci. Mais tu es théologien, donc. Donc, depuis les prophéties de Jérémie, de Ézéchiel, cette promesse attendait d'être accomplie pour des siècles, pour être réalisée. À un certain moment, Jean-Baptiste apparaît. Il baptise les gens en vue d'un changement de vie. Son baptême est un symbole d'une purification. Sauf que Jean n'est pas capable, et l'eau comme telle n'est pas capable, de purifier réellement les gens. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci de Jésus. Moi, alors Jean le Baptiste, moi, je vous baptise dans l'eau pour que vous changiez de vie. Mais celui qui vient après moi, Jésus, vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il est plus fort que moi. Je ne suis pas digne d'enlever ses sandales. Il va vous baptiser dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot baptiser veut dire plonger. C'est devenu un terme technique pour ce symbole dans l'Église, mais ça veut dire simplement plonger. Plonger quelqu'un dans l'eau. Il faut une certaine quantité d'eau, bien sûr, pour pouvoir plonger, mais c'est ça, plonger. C'est clair. Tout le monde peut plonger quelqu'un ou quelque chose dans l'eau. Mais est-ce qu'on peut plonger quelqu'un dans l'esprit? Je ne sais pas comment imaginer ça. Plonger quelqu'un dans son esprit, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Ici, le mot « plonger » est utilisé au sens figuré. C'est une image. C'est un symbole, une comparaison. Jean fait une comparaison entre ce qu'il fait, baptiser dans l'eau, et ce que Jésus va faire. Baptiser, entre guillemets, plonger dans le Saint-Esprit. Ce que moi je ne peux pas faire, dit Jean. Je peux baptiser par l'eau, mais l'eau comme telle ne purifie pas. Et moi, je ne peux pas effectuer ce que le baptême dise. Mais lui, Jésus, il peut l'effectuer. Il va l'effectuer par le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous donner l'Esprit Saint abondamment, une grande quantité. Il va vous baptiser dans le Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'il va vous purifier, qu'il va renouveler votre vie, afin que vous soyez un peuple pour Dieu, afin que Dieu soit vraiment ton Dieu. Voilà la personne qui va accomplir cette promesse de l'ancienne alliance. C'est lui qui va donner, dans une mesure abondante, le Saint-Esprit. C'est lui qui baptiserait, entre guillemets, l'Église du Saint-Esprit. Il faut éviter un malentendu. Jean n'annonce pas ici un deuxième baptême, comme s'il fallait dire, il y a d'abord un baptême d'eau, après ça, deuxième baptême, baptême de l'Esprit. Non. Ce n'est pas un deuxième baptême. Ici, Jean annonce l'œuvre du Christ en utilisant cette comparaison avec son propre œuvre. Moi, je baptise dans l'eau, et Jésus, il va, pour ainsi dire, entre guillemets, vous plonger dans le Saint-Esprit. Donc, pas un deuxième baptême, mais c'est un terme pour indiqué l'œuvre du Christ qui donnera le Saint-Esprit. Et ce mot que Jésus baptise dans le Saint-Esprit est toujours, il y a une seule exception, mais je le fais tomber maintenant, c'est toujours en comparaison avec ce que Jean fait. Si Jean est mentionné, on peut parler du baptême du Saint-Esprit. Si Jean n'est pas mentionné, on n'en parle pas, on utilise d'autres termes. Voilà donc ce qui arrive à partir du jour de la Pentecôte. C'est à partir de ce jour que Jésus commence à accomplir cette promesse. Et il annonça quelques jours avant à ses disciples, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. » Car Jean, encore Jean, « car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Et quelques jours après, cela est arrivé effectivement, acte 2, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ah, on ne parle plus du baptême parce qu'on ne mentionne pas Jean, on utilise un autre mot, mais pour la même chose. Donc ce sont deux termes, deux mots pour le même événement que le Christ donne son esprit à l'Église. Je vais encore revenir sur ce mot « être rempli ». Quelle est la conséquence de ce don du Saint-Esprit? On peut le voir dans la vie de ces gens qui se sont convertis. Par exemple, en acte 2, ils étaient tous rassemblés et tous persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la communion des pains, dans la fraction des pains, dans la communion. Voilà une communauté vraiment changée, un effet de l'œuvre du Saint-Esprit. Et on a vu croître le fruit de l'Esprit, l'amour, la persévérance, la compassion, la patience, ainsi de suite. Tout ça, des effets de ce que le Saint-Esprit fait. Jésus baptise, remplit son Église, et voilà les conséquences. Et ainsi, le Saint-Esprit est toujours en train de former l'Église, un peuple pour Dieu, afin que nous soyons vraiment son peuple, afin que lui soit vraiment notre Dieu. Et il n'y a pas encore une fois un échec, comme la première fois, parce que c'est le Saint-Esprit qui renouvelle. Et lui, son œuvre, n'aboutira jamais à un échec. Est-ce que tout cela nous engage? Mais bien sûr, tout ça, Dieu, Christ, a fait ça pour nous. Et il y a plein de passages bibliques, mais c'est impossible de traiter beaucoup. Donc je me limite à un seul appel de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Soyez remplis de l'Esprit. Oui, remplis. Nous avons déjà vu que c'est un autre terme pour être baptisé. Remplir quelqu'un, quelque chose par un esprit, est-il possible? Est-ce que je peux prendre un fût, un tonneau, et remplir ça par l'esprit? Ça ne va pas. Mais c'est aussi un terme qu'il faut comprendre dans le sens figuré. Qu'est-ce que ça veut dire? Être rempli de l'esprit, ça veut dire être dominé par l'esprit, être géré par l'esprit, être guidé par l'esprit. Je peux montrer ça par un exemple d'une situation opposée. Est-ce que vous connaissez Ananias, l'homme qui a menti à Pierre en disant qu'il avait vendu un terrain pour un certain montant, tandis qu'il avait caché une certaine partie de ce montant, ainsi de suite. Qu'est-ce que Pierre lui dit? Ananias, pourquoi le Satan a rempli ton cœur. Ananias était rempli du Satan. C'est-à-dire dominé par le Satan, géré par le Satan. Et c'est ainsi que Paul nous exhorte à être rempli, dominé, régi par le Saint-Esprit. On peut voir ça déjà dans ce passage, Éphésiens 5, parce que qu'est-ce que Paul écrit? Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Il ne faut pas que l'alcool te domine, que l'alcool te gère, mais au contraire, soyez dominés par le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une certaine expérience. Bien sûr, il y a des conséquences qu'on peut expérimenter, ça c'est clair. Mais parfois, on présente d'être rempli par le Saint-Esprit comme une expérience. Une expérience émotionnelle, même physique. Et on peut dire, oui, mais maintenant, j'ai remarqué ça, maintenant je suis rempli du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas dans son sens que la Bible en parle. Pense encore une fois à Ananias. Il était rempli du Satan. Est-ce que ça veut dire qu'il a vécu à un certain moment une certaine émotion, une certaine expérience émotionnelle, même physique? Ah, maintenant, vous, je suis rempli du Satan? Mais non, on ne sait pas comment. Donc, c'est un terme qui ne demande pas une attention à une certaine expérience, mais ça veut dire qu'on est dominé, on est régi par le Satan, comme Ananias, ou par le Saint-Esprit, comme les Carillon. Et comment est-ce qu'on peut remarquer ça? Qu'on est rempli par le Saint-Esprit, qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Comment Pierre a pu remarquer que Ananias était rempli de Satan? Par ce qu'il faisait, par ses actes, par son attitude. Comment quelqu'un, comment par exemple ce pasteur que j'ai mentionné au début, ou bien son église, comment on peut constater que quelqu'un est vraiment rempli du Saint-Esprit? Par ses actes, par son attitude, par ses paroles, ainsi de suite, par les effets. Être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois pour toutes au même niveau, ainsi de suite. Par exemple, quand on a voulu choisir, installer des diacres, acte 6, on a indiqué des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Mais tous étaient remplis du Saint-Esprit. Mais quand même, apparemment, ils étaient, pour ainsi dire, plus remplis que les autres. Et il y a des périodes où ta vie spirituelle peut descendre un peu, peut devenir un peu moins intensif. Et à un certain moment, on peut avoir besoin d'un renforcement de sa vie spirituelle, un renouvellement. Et c'est ainsi qu'on voit déjà dans le livre des Actes que des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit étaient de nouveau remplies du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose qu'on peut vivre. Par exemple, on peut vivre à un certain moment une intensification de son lien avec le Christ, un nouveau dévouement, peut-être après une période d'affaiblissement, c'est toujours possible, ça se fait, un nouveau dévouement à Dieu, à l'Église, une nouvelle confiance, peut-être après une période de déception ou de perte de confiance, on peut vivre une paix intérieure qu'on ne connaissait pas encore dans cette mesure avant. On peut connaître un nouvel amour, peut-être après une période de refroidissement dans la relation avec Dieu. On peut se sentir encouragé pour une nouvelle tâche dans l'Église, par exemple. Ce sont des réalités. Et j'espère vraiment que vous reconnaissez ça dans votre propre vie, que parfois il y a une intensification de ta vie avec Dieu, un renouvellement. Ce n'est pas toujours stable. Il y a des périodes en bas, mais aussi, heureusement, des périodes de renouvellement, être rempli du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que Paul nous exhorte à être rempli du Saint-Esprit. Et c'est frappant. On est rempli, c'est le Christ qui doit le faire, mais au même moment, c'est un ordre, une hiérarchie. Soyez rempli du Saint-Esprit. Mais comment? Je donne très court trois éléments. Je pense que le premier élément indispensable, c'est la prière. Comme Jésus a dit, on peut lire ça en Luc 11, « Vous qui êtes mauvais, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Priez-vous régulièrement pour avoir le Saint-Esprit? Dans ma tradition, on ne donnait pas beaucoup de place à l'œuvre du Saint-Esprit. Je ne fais pas cette habitude de prier régulièrement du Saint-Esprit. Toutefois, c'est vraiment important. On peut demander de beaucoup de choses, mais la chose la plus importante, c'est le Saint-Esprit. C'est le résumé de tout ce que Dieu veut te donner. Faites ça, je dirais, chaque jour. Par exemple, au début de la journée, donne-moi ton Saint-Esprit, remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que je vive comme vraiment ton enfant, afin que je te confie, afin que je témoigne, ainsi de suite. D'abord la prière. Ensuite, boire les paroles de Jésus. Et je fais référence à ce que Jésus disait, Jean 7. Il écria à la fin d'une fête, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Et là-bas, il parle du Saint-Esprit, dans une mesure abondante des fleuves. Et comment on peut avoir l'Esprit en abondance? Il faut boire auprès de Jésus, lire ses paroles, les méditer, les écouter, les suivre, boire les paroles de Jésus. Et troisième élément, vivre par l'Esprit. Et ça semble un peu une contradiction, parce que c'est l'Esprit qui nous fait vivre selon la loi de Dieu. Donc il faut d'abord être rempli du Saint-Esprit avant qu'on puisse vivre. Mais non, dans la Bible, ça va ensemble. Fais tout pour ton salut parce que c'est Dieu qui fait tout en toi. Hein? Oui. Par la voie de ton effort, c'est Dieu qui veut travailler en toi. Et c'est aussi le cas avec l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, si on veut être rempli du Saint-Esprit, il ne faut pas simplement attendre les bras croisés, attendre jusqu'à ce que l'Esprit te remplisse. Non. Il faut marcher, il faut vivre par l'Esprit. Et Paul montre ça aussi dans le passage qu'on cite, Éphésiens 5. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous enivrez pas de vin, ne sois pas dominé par le vin, par l'alcool. Il mène à un comportement malfaisant. Mais soyez remplis de Saint-Esprit. Soyez dirigés, dominés par le Saint-Esprit. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu, le Père, en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. On pourrait lire ça de cette façon. Il y a cinq ordres, cinq charges. 1. Être rempli du Saint-Esprit. 2. Encouragez-vous. 3. Chantez. Mais non. Il faut comprendre ça si je rends ça d'une façon plus littérale. Comment est-ce que Paul écrit ça? Soyez remplis de l'Esprit Saint, c'est ça l'ordre. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vous encourageons les uns les autres, en chantant des cantiques, en remerciant Dieu, en étant soumis les uns aux autres. Alors, comment est-ce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit? Par s'encourager mutuellement, par chanter, par remercier Dieu, par être soumis les uns aux autres. C'est ça la façon d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que le Christ continue jusqu'à nos jours, jusqu'à notre Église. Il continue à accomplir la promesse de l'ancienne alliance, le don du Saint-Esprit. Afin que nous soyons toujours plus son peuple à lui et que lui soit toujours plus notre Dieu à nous. Afin qu'il se réjouisse de son peuple et afin que nous, son peuple, nous nous réjouissons en lui. Amen.